La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Bonjour et bienvenue au menu des discussions du club. Aujourd'hui, des œuvres d'art, des fantômes et de la biodiversité urbaine. Je vous présente nos invités dans un instant. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Daniel.
À la une de la science aujourd'hui, une étude qui confirme un lien entre les virus de la famille de l'herpès et Alzheimer.
Oui, une étude importante qui vient renforcer une théorie assez débattue. Certains virus de cette famille dans le cerveau pourraient favoriser le développement de la maladie. On en discute avec un spécialiste, le professeur Philippe Amouyel.
Vous pouvez réagir sur Twitter avec le mot-clé « L'attaque ». Cette émission est réalisée par Fanny Beauhuon. Elle a été préparée par Chantal Lemontagnier et Hannibal Wachi.
La tête au carré, le club, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Invité du club de la tête au carré ce vendredi, Loïc Mangin, Aline Richard, Grégory Delaplace, Diane Rotner, Nastasia Michael et Benoît Tonzon. Bonjour à tous les six.
Bonjour. Bonjour.
Alors avec vous, Loïc Mangin, on va regarder des chefs-d'œuvre de l'art avec l'œil du scientifique. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine Pour la Science et vous venez de publier aux éditions Belin un livre intitulé Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer et la science. Alors l'art peut être une porte d'entrée pour aborder toutes sortes de sujets scientifiques, c'est ce dont
oui,
on se rend compte.
Oui, un peu vice-versa en fait. Quand on prend un chef-d'œuvre, beaucoup ont à raconter une petite histoire de science qui est une façon d'appréhender l'art et d'apprécier.
Ouais. Juste une toile là comme ça, en exemple.
Un Dali forcément, le Corpus Hypercubus ou la croix du Christ est en fait un objet en quatre dimensions.
Ouais. On verra plein d'autres exemples dans la suite de cette émission. Aline Richard, éditrice Science et Technologie pour le site The Conversation, dont nous sommes partenaires. Alors tous les mois, vous nous invitez à découvrir un scientifique et ses travaux. Et aujourd'hui, on part traquer les fantômes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Aline ?
Ah bah vous allez voir tout à l'heure avec Grégory qui va nous en parler, que les fantômes, on n'y croit pas, mais finalement, ce n'est pas le plus important. Ouais. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe quand on en rencontre un.
Ouais. C'est vous, Grégory Delaplace, qui avez écrit cet article publié sur le site de The Conversation. Vous êtes anthropologue. Et alors, finalement, pour connaître une culture, son rapport à la mort, ses traumatismes, s'intéresser à ces fantômes, ça peut être un bon moyen d'y arriver.
Oui, tout à fait. D'autant plus que ça ne dépend pas toujours des vivants. Et les vivants ne choisissent pas toujours quand les fantômes apparaissent. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour savoir leur rapport au monde.
Et puis, Axel Villard, suite de la série de reportages initiée vendredi dernier, nous allons découvrir deux nouveaux reportages réalisés par les étudiants que vous avez encadrés cette année. Vous nous les présentez, ces trois étudiants qui sont avec nous.
Alors, on est avec Diane Rotner, et Nastasia Michels et Benoît Tonzon. Et on va partir pas trop loin de Paris, parce que quand on est étudiant, c'est difficile d'aller faire des reportages un peu loin. On ira deux nuits dans le bois de Vincennes pour voir non pas s'il y a des fantômes, mais s'il y a des renards.
Ouais.
Ça, c'est Diane et Nastasia qui ont fait ce reportage. Et avec Benoît, on ira gratter le fond des caniveaux de la capitale pour connaître un petit peu les microbes avec qui on cohabite toute l'année.
Mais quel programme ! Voilà pour les thèmes du jour et les auditeurs peuvent participer et réagir via la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook de La Tête au Carré. Quel est le lien entre herpès et Alzheimer ? La question est à la une de la science. Aujourd'hui, une étude parue hier dans la revue Neurone renforce une théorie controversée concernant Alzheimer. Des chercheurs new-yorkais ont découvert un lien statistique fort entre la présence de certains virus de la famille de l'herpès dans le cerveau de personnes décédées et le niveau de développement de la maladie d'Alzheimer chez ces mêmes personnes. Une piste qui avait déjà été explorée par le passé et qui trouve ici des confirmations. Axel, on en discute avec notre invité.
Oui, on est au téléphone avec Philippe Amouyel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de santé publique à l'hôpital de Lille et directeur du laboratoire d'excellence de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et pour replacer un petit peu cette étude dans son contexte, depuis combien de temps est-ce que le spectre de ces herpès virus, c'est une grande famille, pèse sur les recherches sur la maladie d'Alzheimer ?
Alors les premières hypothèses qui concernent l'implication éventuelle de ces virus de l'herpès dans la maladie d'Alzheimer remontent à la fin des années 90 où un chercheur anglais, qui est une femme, Ruth Itzhaki, a publié des travaux montrant que les gens qui avaient une certaine susceptibilité à la maladie d'Alzheimer augmentaient leur risque lorsqu'ils avaient une infection de type herpétique.
Et pourquoi ça a été mis un peu de côté? Et surtout, qu'est-ce qu'apporte de nouveau cette étude qui vient d'être publiée?
Alors, il est toujours difficile dans ces grandes études épidémiologiques de faire des liens biologiques forts. On fait des corrélations, on fait des associations, et surtout sur une maladie comme la maladie d'Alzheimer qui va s'étendre sur 10, 20 ou 30 ans, savoir si une infection qui a eu lieu dans l'enfance a une répercussion 65 ans après est extrêmement difficile à établir. Donc c'est pour ça que on cherche à avoir des preuves directes ou indirectes qui nous permettent de renforcer cette hypothèse. Et peu été exploré ces derniers temps jusqu'à l'explosion des nouvelles technologies et des nouvelles nanotechnologies d'exploration du vivant qu'on a aujourd'hui depuis le milieu du début de ce siècle. On s'est rendu compte qu'il était possible d'enregistrer énormément d'informations au niveau de l'ADN, au niveau de la cellule, et quand on combine toutes ces informations, c'est ce qu'ont fait ces chercheurs new-yorkais, et ben apparaissent de nouvelles liaisons et qui ont pointé du doigt dans le lien avec la maladie d'Alzheimer deux virus de l'herpès humain.
On peut peut-être préciser que les virus dont on parle ici ne sont pas les virus connus pour être les maladies du baiser. Hein.
Non, alors il existe un grand nombre d'herpès. De virus, ouais. Hein, d'herpès, de type herpétique, hein, comme ouais. On dit. Il en existe un en particulier qui est celui qui donne une forme que connaissent bien les pédiatres et les mamans qui, lorsqu'elles voient leurs petits-enfants de 2-3 ans faire une poussée de fièvre et se couvrir de tout petits boutons, qu'on appelle la roséole ou sixième maladie. Ça, c'est un virus de l'herpès, par exemple. Et bien, c'est dans le cadre de ce type de virus que le lien a été fait. Pourquoi? Parce que ce que l'on sait, c'est que ces virus herpétiques, hein, quels qu'ils soient, quelle que soit leur pathogénicité, ont la fâcheuse tendance de se cacher dans nos cellules, en particulier certains dans nos nerfs. Hein, l'exemple du virus de la varicelle, hein, l'exemple des petits-enfants, la varicelle, les grands-parents vont faire le zona. C'est juste le même virus qui se réveille à deux époques différentes parce qu'il était là, dormant, bloqué par notre système immunitaire. Et que tout d'un coup, il se met à réapparaître.
Alors Philippe Amouyel, ce que vous nous dites, ça va rassurer tous ceux qui ont un herpès sur le visage et qui se disent « bon, bah ouf, ça n'augmente pas mes chances d'avoir la maladie d'Alzheimer ». Par contre, tous les parents qui ont un enfant en bas âge qui a contracté la roséole ou qui l'ont eu étant petit vont être inquiets. Alors qu'est-ce qu'on leur dit?
Alors, on leur dit d'abord que c'est jamais qu'une association, qu'il va falloir le prouver qu'on en est loin, ça c'est le premier point. Mais surtout, c'est que cette roséole est fréquente. 85% de la population humaine l'a fait au moins une fois dans sa vie. Et quand vous avez un facteur de risque fréquent comme celui-ci et une maladie malheureusement fréquente après l'âge de 80 ans, comme la maladie d'Alzheimer, il n'est pas, on peut trouver des associations. Mais ce qui est important maintenant de savoir, c'est comment tout ça fonctionne. Est-ce que c'est le virus lui-même, le fait d'avoir fait cette roséole qui est le facteur de risque, ou alors ce qu'implique ce virus au niveau de notre métabolisme, au niveau de la façon dont notre corps résiste à la maladie d'Alzheimer, qui est important. Parce que dans un cas, c'est pas la même chose, vous pouvez très bien avoir été infecté, et c'est ce qui arrive pour la majorité d'entre nous. En revanche, si vous n'avez pas les conditions qui favorisent l'apparition de la maladie d'Alzheimer associée à cette infection, à ce moment-là, vous pouvez lutter contre, vous pouvez prévenir cette maladie. Donc ce que les chercheurs là ont découvert, c'est un lien biologique qui nous permet de mieux comprendre comment la maladie s'installe avec le temps, de mieux comprendre les moyens qu'on va pouvoir également d'avoir de prévenir la maladie avec des habitudes de vie, avec un fonctionnement qui va justement amener à nous éloigner le plus tard possible le début des symptômes de cette maladie.
Philippe Amouyel, si on rentre un petit peu dans le cerveau quand même, est-ce qu'on a une idée ou des hypothèses de ce qui se passe dans le cerveau justement avec ce virus et ce qui pourrait favoriser la maladie?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau face à la maladie d'Alzheimer ne reste pas inactif. Il lutte, il va lutter, puis quand il ne pourra plus lutter, ben les symptômes malheureusement apparaîtront, mais pendant 10, 20 ou 30 ans, il lutte. Or ces virus, généralement, notre cerveau lutte également contre eux. Et ce qu'on imagine, c'est que il est un peu épuisé à lutter à la fois contre les virus, contre la maladie d'Alzheimer, donc s'il met en premier les virus, il va un peu se relâcher sur la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, hein, de manière très schématique. Du coup, ce qu'on se dit, c'est que si on connaît ces mécanismes de défense, si on arrive à les surstimuler de manière à ce qu'ils puissent à la fois lutter contre les virus, mais également contre la maladie d'Alzheimer, on aura là trouvé une nouvelle voie de prévention et de traitement de la maladie. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre cette découverte.
Mais dans ce cas, il n'y a pas de spécificité des virus de l'herpès, parce que n'importe quelle infection qui fatiguerait nos défenses immunitaires viendrait augmenter les chances de développer Alzheimer.
Alors, il n'y a pas de spécificité, vous avez raison, du virus de l'herpès, mais il n'y a pas de spécificité de la maladie, parce que dans d'autres maladies, on trouve l'implication de ces virus, des maladies comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Parkinson, on pense qu'ils peuvent avoir une action, mais pas nécessairement une action directe et spécifique, mais bien une action vis-à-vis des mécanismes de réaction qu'a notre cerveau pour lutter à la fois contre ces virus et contre les maladies qui l'agressent.
Donc est-ce qu'il faut retenir que les virus qui sont dans notre cerveau peuvent potentiellement favoriser la maladie, ou est-ce qu'il faut retenir ce nom d'herpès virus et cette famille en particulier? Est-ce qu'il y a vraiment un faisceau de preuves plus précis?
Alors, de toute façon, par rapport à ce travail qui est un premier travail, il va falloir attendre des confirmations. Vous savez qu'en recherche et qu'en science, un résultat n'est valable que quand on n'a pas démontré qu'il ne l'était plus. Donc, beaucoup d'équipes vont se mettre probablement à regarder la même chose, voir si elles confirment ça. Donc, attendons déjà ces premières informations. Ce qui est intéressant, c'est que ça apporte un peu une reviviscence de cette hypothèse virale, mais il en existe beaucoup d'autres. Ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, donc il ne s'agit pas de paniquer, il ne s'agit pas de se dire « Ah mon Dieu, je fais un herpès, que va-t-il se passer ?» mais bien au contraire, de voir ça comme quelque chose de positif, qui va être une source de nouvelles découvertes pour justement savoir comment mieux lutter contre la maladie d'Alzheimer.
Merci Philippe Amouyel, à la fois de nous avoir expliqué et de nous avoir rassuré. Je signale votre livre intitulé « Le guide anti-Alzheimer » qui est paru en mars dernier aux éditions du Cherche Midi. Un grand merci à vous. Et Axel, vous restez dans le coin pour soutenir vos étudiants.
Et oui, à tout à l'heure.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, triste nouvelle, Coco, la gorille, s'est éteinte avant-hier pendant son sommeil à l'âge de 46 ans. Coco était une femelle gorille la plus célèbre au monde. Elle a fait la une de National Geographic à deux reprises, mais elle est surtout connue pour être l'ambassadrice des gorilles et le symbole de la communication entre les espèces. Exceptionnellement intelligente, Coco avait appris dès son plus jeune âge à communiquer avec les hommes en langage des signes et avait démontré une grande capacité d'empathie. Des images de Coco avec l'éthologue Penny Patterson sont visibles sur le Facebook de La Tête au Carré. En une du magazine Science, cette semaine, les sacrifices humains des Aztèques. Des milliers de crânes découverts depuis 2015 ont permis aux scientifiques de décrypter un important site de sacrifice humain dans la capitale aztèque Mexica entre le 14e et le 16e siècle. Pour nourrir les dieux et s'assurer la santé, les Aztèques ont érigé des murs de crânes humains de 36 mètres de longueur, ainsi que des tours constituées uniquement de crânes. Précision moyennement rassurante, toutes les personnes sacrifiées n'ont probablement pas souffert de leur décapitation, puisqu'on avait pris soin de les tuer juste avant en leur arrachant le cœur. Et pour terminer, un clin d'œil à l'outre-mer. Si vous êtes en Guadeloupe entre le 25 et le 29 juin prochain, ou si vous nous écoutez depuis Basse-Terre, ne manquez pas le deuxième sommet mondial de l'exploration du côté sombre de l'univers. L'événement propose deux conférences grand public autour des grands mystères de l'univers. Conférences présentées par les astrophysiciens François Boucher et David Elbaz du CNRS. Big Bang, trous noirs et matière noire sont au programme. C'est gratuit et ça promet d'être passionnant. Œuvres d'art, fantômes et biodiversité au programme des discussions du Club de la Tête au Carré sur France Inter dans un instant. C'était Even the Blaze sur France Inter.
La tête au carré, le club.
Le club de la tête au carré en compagnie d'Aline Richard, journaliste à The Conversation, Grégory Delaplace, anthropologue, Diane Rottner, Nastasia Michael et Benoît Tonson, étudiant en journalisme scientifique, et Loïc Mangin, rédacteur en chef adjoint du magazine Pour la Science, où il tient également la rubrique Art et Science. Il vient de publier Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer et la science aux éditions Belin.
Vous observez le tableau ? Alors ?
Aucune couleur ne correspond à la réalité.
C'est seulement la première couche. Elle nuance le ton. Cela permet de jouer avec la lumière. Quand c'est sec, je passe un glacis bleu très fin pour que le noir transparaisse. Ceci est de la laque rouge, de la gomme arabique, de la lie de vin. Ça donnera du vert de gris, de la malachite. Et là, c'est de l'huile de lin. Du noir d'ivoire. On le broie avec un pilon, comme ceci. Venez voir, les nuages, de quelle couleur sont-ils ?
Blanc ? Non. Non, pas tout à fait. Il y a du jaune, du bleu et du gris. Il y a des couleurs dans les nuages.
Vous avez compris.
La jeune fille à la perle de Peter Weber, dans lequel on découvre les techniques de William Vermeer. Alors dans votre livre, Loïc Mangin, il ne s'agit pas d'analyser ces techniques, de rentrer dans les secrets du peintre avec des outils scientifiques ultra compliqués. C'est plus subtil que ça. C'est le prétexte de parler de science au détour d'un tableau. C'est de voir que la science est partout et que le regard du scientifique peut éclairer de façon différente une œuvre d'art.
Voilà, c'est exactement ça. Je ne sais pas si c'est plus subtil, mais c'est une de ces nombreuses passerelles qui existe aujourd'hui entre art et science. Donc effectivement, on peut analyser un tableau pour savoir de quel pigment il est fait, etc. Enfin, ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait. On peut aussi réfléchir de façon plus théorique sur les points communs entre la démarche de l'artiste et la démarche du scientifique. Et on peut aussi prendre une voie un peu détournée, et c'est celle que j'ai choisie, c'est de partir d'une œuvre d'art et de raconter une petite histoire de science qui apparaît au détour du tableau, de la sculpture, enfin de l'œuvre en tout cas. Et ensuite... Donc ça offre, c'est une espèce de perception augmentée, une petite histoire de science qui permet d'apprécier un peu plus le tableau encore.
On va prendre des exemples, naturellement. Alors parfois les liens sont assez évidents, comme dans le cas de Léonard de Vinci, dont on sait à quel point il aimait les sciences et les techniques. Alors vous vous intéressez plus particulièrement à la façon dont Léonard de Vinci dessinait les arbres. Il avait établi une règle très précise concernant les branchages.
Voilà, donc il s'est sans doute à force d'observation dont il s'est nourri pour tous ses tableaux, parce que ça marche aussi pour les turbulences de l'eau, ça marche pour les drapés, et pour l'arbre, il est arrivé à une sorte de règle dite de Léonard, où le diamètre des branches, une fois réunies, est égal au diamètre du tronc initial. Donc c'est-à-dire que tout se divise en deux dimensions sur un papier. Si on mesure la largeur de chaque branche à un niveau donné, on additionne, on retrouve le diamètre du tronc initial.
Alors c'était empirique, il le constatait. Est-ce qu'aujourd'hui on a démontré cette espèce de théorème des branches de l'arbre ?
Alors, d'abord, un mathématicien français s'y est intéressé, Monsieur Mandelbrot, le père des fractales, et c'est intéressant justement, il a fait un peu de littérature là-dessus, s'est rendu compte que dans les études qui ont porté sur l'architecture des arbres, ça marchait assez bien. La règle de Léonard était vérifié. Il a voulu aller un peu plus loin, et donc il s'est intéressé à ça. Mais un peu plus tard, il y a un autre mathématicien français qui a voulu faire de l'ingénierie inverse, c'est-à-dire qu'il a modélisé des arbres et voulu vérifier que cette architecture-là correspondait bien à des contraintes, en l'occurrence, résister le mieux possible au vent. Et donc, en faisant varier le diamètre des branches, en respectant deux, trois principes d'architecture des arbres, il a pu vérifier qu'en fait, ça marchait bien et que Léonard avait compris et que les arbres, finalement, étaient très, très bien adaptés à l'environnement, en l'occurrence, la météo.
Qu'on puisse parler science avec Léonard de Vinci, c'est pas vraiment une surprise, mais vous arrivez aussi à le faire. On reste dans le végétal avec Van Gogh et ses tournesols. Là aussi, vous avez des choses intéressante à nous dire sur ces tournesols un peu en forme de pompon qu'a dessiné Van Gogh.
Alors là, pour le coup, l'aspect scientifique n'était pas du tout au cœur de l'intérêt de Van Gogh. Hein. Oui. Mais il se trouve qu'il a fait des tournesols, il en a fait plein. Et ils ne sont pas tous pareils. Donc il y a différents degrés de maturité au niveau du bourgeon jusqu'à des degrés de maturité très avancés. Et certains sont assez étonnants, ne correspondent pas à l'image qu'on a du tournesol. Ils sont en forme de pompon. Et donc du coup, comment l'expliquer ? Est-ce qu'il a inventé ? Ou est-ce qu'il s'est vraiment fondé sur des vrais tournesols qui existent ? C'est bien la deuxième option. Et donc des généticiens se sont penchés sur le problème et ont montré que ces tournesols en fait souffraient d'une mutation. Mmh. Alors je sais pas si on peut rappeler en quoi consiste vraiment un tournesol, mais la fleur d'un tournesol, c'est pas l'ensemble du tournesol, c'est juste soit un petit tube au milieu, ouais. Soit ce qu'on pourrait appeler un pétale et qui en fait n'en est pas un.
Donc en fait, quand on regarde ce qu'on croit être la fleur de tournesol, c'est un bouquet de fleurs en fait,
exactement.
C'est ça que vous nous dites. Hein.
C'est un réceptacle, une sorte de capitule sur lequel chaque petit élément correspond à une fleur. Mmh. Ceux de la périphérie ressemblent à des pétales, n'en sont pas, on dit qu'ils sont ligulés. Mmh. Et au milieu, ceux qui vont devenir les graines de tournesol, qui sont ouais. en fait des fruits, sont en forme de tube. Ouais. Les tournesols en forme de pompons.
Alors, je vous laisse reprendre votre souffle. Ce qui est intéressant hein, dans ce livre, c'est que on voit à quel point on arrive à faire dialoguer science et art, et faire dialoguer science et art, finalement, on revient aux sources. Parce que si on remonte un peu en arrière, au-delà du XVIIe siècle, il n'y avait pas de frontières entre art et science. C'était même souvent les mêmes qui pratiquaient l'un et l'autre. En fait, c'est une réconciliation un petit peu à laquelle on assiste en ce moment.
C'est ça. Puis justement, on parlait de Léonard de Vinci qui était un exemple typique, qui était à la fois artiste, à la fois scientifique, et il mêlait les deux. La tradition, on peut remonter, je sais pas, jusqu'à Pythagore, par exemple, qui était mathématicien et qui a posé les fondements de la musique, par exemple, d'un point de vue purement mathématique. Et il y a eu une séparation, qui est difficile de dater, mais probablement au XVIIe siècle, peut-être XVIIIe, où les savoirs se sont séparés, on est devenu, je schématise, hein, soit artiste, soit scientifique, et ces deux disciplines ont avancé séparément. Et puis, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, des passerelles commencent à être retissées ouais. De façon très très nombreuse. Et il y a plein d'exemples. Il ouais. suffit de regarder, par exemple, toutes les résidences artistiques ouais.
Ça fait de plus en plus.
Il n'y a ouais. pas une institution scientifique qui n'a pas sa résidence artistique. Ouais. Et donc après, ça crée des échanges qui vont nourrir la démarche de l'un, la démarche ouais. de l'autre, qui va prendre du recul, qui va avoir une autre façon de faire ça.
Alors, des choses un peu comme ça, ça a dû exister même au 19e. Hein, il y a cet exemple que vous citez entre les deux William Turner et William Herschel. Donc William Turner, peintre, William Herschel, astronome. On n'est pas sûr qu'ils se soient rencontrés. En tout cas, ils travaillaient pas loin. Et ce dont on est à peu près sûr à vous lire, c'est que William Turner s'intéressait aux travaux des astronomes et sa peinture s'en ressent.
Déjà, il avait beaucoup d'amis scientifiques, notamment Faraday, mais des mathématiciens, des physiciens, des géologues, Richard Owen par exemple. Donc, il était très intéressé par la science. Et en plus, d'un point de vue purement géographique, l'Académie des Beaux-Arts, à laquelle il appartenait depuis très longtemps à Londres, était séparé de l'Académie des Sciences par une mince paroi. Donc, si ça se trouve, même, il n'avait même pas besoin de rencontrer les scientifiques. Mmh. Il suffisait de mettre son oreille contre le mur et il pouvait entendre ce qui se disait à côté. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Herschel s'est livré à des expériences très intéressantes d'observation du Soleil à l'aide de filtres qui consistaient en des solutions d'encre plus ou moins diluées. Et c'est là où, en fait, le Soleil est devenu un objet scientifique vraiment. Et Herschel a pu montrer qu'il était constitué de trois zones, par exemple, donc un cœur, une zone un peu transparente, élastique, et une zone lumineuse, celle qu'on perçoit ici. Il a aussi montré l'existence de taches solaires, par exemple. Et quand on regarde attentivement un tableau de Turner, on se rend compte que le Soleil est fait de trois textures différentes, un peu tamponnées, avec un petit pinceau fin, etc. Et ça correspond exactement à ce qu'a montré Herschel.
Oui, voilà, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a aussi, et là c'est beaucoup plus récent, on va quitter le monde de la peinture. Votre livre fait la part belle aussi à d'autres formes d'art et pourquoi pas à la mode. Alors là, c'est une histoire plus personnelle. Nous sommes en 2010, vous voilà. Allez assister à un défilé de mode d'Issey Miyake et dans la salle, il y a deux médailles Fields de mathématiques. Hein, donc, la plus haute récompense de mathématiciens. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils n'étaient pas là par hasard.
Non, ils avaient été invités d'abord. Et effectivement, donc c'était d'une part Maxime Koncevitch et d'autre part William Thurston qui était invité pour assister à ce défilé d'Issey Miyake. Donc on est en mai 2010, c'est ça ouais. Voilà. Et en fait, il se trouve que Issey Miyake a conçu ses robes à partir d'un théorème mathématique. À cette époque-là, c'était devenu un théorème qui est le théorème de géométrisation. que l'on doit à William Thurston et à Grégory Perelman, un russe, un mathématicien russe qui avait un peu défrayé la chronique parce qu'il avait refusé tous les honneurs, toutes les récompenses, un million de dollars par exemple. Et en gros, ce théorème de géométrisation démontré par Grégory Perelman validait ce qu'on appelait la conjecture de Poincaré, qui est maintenant le théorème de Poincaré. Mmh. Alors, sans rentrer dans trop de détails, une sphère en trois, on prend n'importe quel objet à trois dimensions sans trou, et en fait, ça correspond, c'est équivalent à une sphère à trois dimensions.
Mmh. Et alors, à quel moment Issey Miyake s'inspire de tout ça ?
Alors, il se trouve, je crois que c'est surtout son directeur artistique qui est très, très, très branché là-dessus. Et quand on se penche sur ce théorème de géométrisation de William Thurston, on arrive à définir huit entrelacs, des nœuds, et c'est à partir de ces nœuds qui correspondent à huit géométries différentes que Issey Miyake a conçu ses robes. Mmh. Et c'est celles-ci qu'on a vues portées par des mannequins qui ont défilé ce jour, voilà, le mois de mai 2010.
Plein d'autres exemples à découvrir dans votre livre Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer et la science. Loïc Mangin, c'est publié chez Belin. Allez, dans un instant, le club de la tête au carré part à la chasse aux fantômes à travers les cultures et les époques.
Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quelle drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse, jeté par les vagues. Échoue sans cesse, là-bas. À présent, l'orage dort sous la grève. Tout gorgé d'eau, le sable s'élève, puisse l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas reposer. Viens là, le soleil perce l'oiseau de ses raides et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vautou. Le soleil perce l'oiseau de ses raides et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain, se voilà-t-il au regard éteint. Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vautour. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vautour. Rien que je te mette à bruit des longs lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur le plaid de tes yeux. Rien que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau moqueur. Pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau moqueur.
C'était l'oiseau de Feu Chatterton sur France Inter.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Le club des Têtes au Carré en compagnie de Loïc Mangin, journaliste pour la science, des étudiants journalistes scientifiques Diane Rottner, Nastasia, Michael et Benoît Tonson, et Aline Richard, éditrice à The Conversation. Et c'est pour vous, hein, Ghostbuster, que l'on entend et qui retentit dans le studio.
J'adore.
Puisque ce mois-ci, vous êtes venu accompagné de Grégory Delaplace, anthropologue, qui signe un article dans The Conversation intitulé « Les fantômes sont des choses qui arrivent ». Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder ce thème, Aline ?
Bah, écoutez, vous remarquerez que nous ne sommes pas habillés de blanc, avec des yeux tout noirs, mais n'empêche qu'à Conversation, on s'intéresse beaucoup aux fantômes, au surnaturel et surtout aux effets dans le social. Cet article qu'on publie donc ce matin, qui s'appelle « Les fantômes sont des choses qui arrivent », est une collaboration avec une très belle revue d'anthropologie qui s'appelle Terrain. Et avec Terrain, donc, on a copublié cet article qui raconte que les fantômes, ils arrivent, et c'est intéressant d'analyser ce qui se passe du côté de ceux qui y sont confrontés, qu'ils soient croyants ou qu'ils soient sceptiques, il se passe des choses quand un fantôme arrive.
Alors Grégory Delaplace, il est ambigu ce titre, les fantômes, ce sont des choses qui arrivent. Alors, et tout de suite, vous le dites d'ailleurs, on n'est pas là pour dire si on y croit ou si on n'y croit pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que ça révèle de ceux qui disent les avoir vus.
Oui, absolument. C'est-à-dire que quand on étudie la façon dont les fantômes apparaissent aux personnes, la façon dont ils la racontent, c'est rarement directement une affaire de croyance. La croyance peut s'installer après, on peut dire « moi j'y crois parce que j'ai eu telle et telle expérience », mais quand on recueille les expériences elles-mêmes, les personnes ne disent pas « ah ben moi, j'y croyais dès le départ, et donc du coup, j'ai pas été surpris de rencontrer un fantôme ». C'est le contraire qui arrive. En général, vous rencontrez des gens qui vous disent « moi, j'étais pas du tout disposé à croire à ce genre de machin, j'étais pas du tout versé dans le surnaturel, et tout d'un coup, il m'est arrivé ça. Il m'est arrivé ça, et depuis, j'ai plus la même attitude par rapport à l'invisible, je regarde plus ma maison de la même manière, j'ai cet ami qui est intervenu à ce moment-là, qui s'est révélé différent de ce que je pensais. Donc, les fantômes sont des choses qui arrivent, parce que, donc, d'une part, elles prennent les vivants au collet, et les oblige à prêter attention à ce qui est en train de se passer, à cette apparition. Et ensuite, c'est des choses qui arrivent parce que c'est des choses qui font advenir des effets qui font bouger les relations, qui révèlent des conflits ou qui obligent à mener des enquêtes.
Donc votre travail ne se situe pas du tout pour essayer de voir la rationalisation, de rationaliser tout ça. Vous, c'est vraiment... qu'est-ce que ça dit des gens qui prétendent les avoir vus ? C'est un peu « parle-moi de tes fantômes, et puis je comprendrai tes rapports que tu entretiens avec tes défunts, les traumatismes passés de ton peuple. Vous avez fait ce travail, alors pas en France uniquement, hein, vous êtes intéressé, vous êtes anthropologue, vous êtes allé en Mongolie. Est-ce que déjà c'est réparti à la surface du globe ? Est-ce que toutes les populations humaines s'inventent des fantômes, ont affaire aux fantômes ?
Alors, je sais pas si elle se les invente. Vous donnez la réponse avant d'avoir posé la question, finalement.
C'est vrai.
Qui invente quoi à quel moment? Mais, c'est vrai que c'est quelque chose que les anthropologues, que les ethnographes retrouvent dans plein de contextes différents et jusqu'au salon scientifique du 19e siècle, vers du 20e siècle. Moi, je travaille sur des archives, maintenant, de scientifiques qui font des enquêtes dans des maisons hantées et qui essayent donc d'enquêter sur ce qui se passe quand les gens racontent une apparition, mais d'enquêter scientifiquement. Alors, ils y arrivent pas toujours et c'est ce qui est aussi intéressant. C'est l'échec de la rationalisation du fantôme. Mais en effet, on en trouve dans plein de contextes différents. Comme je le disais, le numéro de Terrain qu'on a publié rassemble des auteurs qui étudient ce que font les Vietnamiens quand ils rencontrent des fantômes, ce que font les Altaïens. On a aussi des récits qui se passent dans les îles anglo-normandes, de Jersey et Guernsey. À plein d'autres endroits. Moi, effectivement, je suis venu à étudier les fantômes à partir du contexte mongol. J'étais pas forcément prédestiné à étudier ce sujet, mais j'ai aussi rencontré le sujet. Le sujet m'est apparu, il m'est arrivé, et donc j'ai été obligé de le prendre en charge et de m'y intéresser, puisque je travaillais sur les relations des Mongols avec leurs morts, et je me suis rendu compte que les morts, ils intervenaient pas seulement au moment où on devait les enterrer à travers leurs cadavres, la matérialité de leurs cadavres qu'on devait gérer, mais ils intervenaient aussi dans tout un tas de moments plus discrets de la vie sociale où ils apparaissaient. Ouais. Ils apparaissaient, ça créait des sensations chez les gens, des sensations qui changeaient le monde, encore une fois, des personnes et qui les obligeaient à agir. Agir en exorcisant ou agir en accommodant.
Oui, ce qui est intéressant aussi dans ce numéro de terrain et dans l'article qu'on publie aujourd'hui, c'est que c'est de voir vraiment les effets sur les relations interpersonnelles. L'histoire qui est décrite, l'une des histoires qui est décrite, raconte l'histoire d'une femme qui finalement est accusée. Est-ce que c'est un esprit maléfique ou est-ce que c'est tout simplement une manipulatrice? Le fait est que quand elle s'en va, tout va bien. Et c'est vraiment, c'est une espèce de représentation sociale, finalement, comme si le fantôme, en tant que être non défini, ce serait comme un espèce de médiateur entre nous et les autres.
Alors, vous parliez de la Mongolie, mais c'est évidemment pas vécu de la même manière, ces histoires de fantômes, selon le pays et la culture dans laquelle on se place.
Tout à fait. Et
en Islande, par exemple, alors si j'ai bien compris, les fantômes sont totalement admis, c'est normal. On a tous des fantômes chez soi, comme on a une corbeille de fruits.
Absolument. Donc ça, c'est le travail d'un anthropologue, d'un collègue, qui s'appelle Christophe Pons, qui est à Marseille, et à Aix, et qui a étudié, en effet, les fantômes, les apparitions chez les Islandais. Il leur posait des questions, il essayait d'avoir des témoignages, jusqu'à ce que ça finisse par énerver ses interlocuteurs. Ils disaient, mais pourquoi tu nous parles de ça? Je veux dire, c'est évident, il y a des fantômes partout, pourquoi tu t'intéresses encore à ça? En gros, ouvre les yeux, et toi aussi, tu les accueilleras, toi aussi, tu les verras. C'était effectivement une évidence. Mais même dans le cadre de ce genre d'évidence, dans les contextes culturels où les fantômes ont une place particulièrement importante et admise, quand ils apparaissent, c'est quand même un événement. C'est quand même quelque chose qui fait bouger les lignes. Mmh. Autrement dit, c'est deux choses différentes de savoir qu'on a un fantôme chez soi, ou d'être confronté et tout d'un coup de se faire réveiller par une forme qui est au-dessus de son lit et qui vous regarde. Parce que c'est ça dont on parle.
Oui, un autre exemple. D'ailleurs, les formes sont toujours les mêmes selon les pays, les cultures.
Pas du tout. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des modes à des moments. Il y a des modes de fantômes. Alors, par exemple, à un moment en France, ou même en Europe, à la fin du 19e siècle, des briques étaient jetées des fenêtres et arrivaient dans la rue. Et ça, c'était les phénomènes de maisons hantées qui préoccupaient le plus, qui défrayaient la chronique. En Mongolie, par exemple, j'ai recueilli des histoires où c'est des odeurs de friture qui suivent les gens et qui sont inexplicables à ce moment-là et qui, à la suite d'une enquête, se révèle être des fantômes.
Alors, le fantôme de l'odeur de friture qui nous suit, je crois que celui-là, je l'ai déjà rencontré.
Peut-être pas dans la steppe, justement.
Alors, peut-être pas dans la steppe.
C'est ça. Ouais, quand on est à côté de restaurant, ça, effectivement, c'est tout à fait, c'est pas du tout fantomatique. Ouais. Alors, au Vietnam, il y a aussi des fantômes, ou en Thaïlande, qui se nourrissent de l'odeur de friture. Donc, ça peut être inverse aussi.
Vous citiez le Vietnam. Allons-y au Vietnam, parce que là aussi, c'est une autre utilité du fantôme.
Alors effectivement, je suis très content d'avoir pu intégrer à ce numéro l'article d'un collègue, Eonic Kwon, qui a travaillé sur les fantômes de la guerre du Vietnam. Ouais. Et qui a montré que dans le Vietnam d'après-guerre, les fantômes, ils ont une place particulière. Pas seulement parce qu'ils donnent une forme à une mémoire collective qui n'est pas passée, mais aussi parce qu'ils permettent, ils ouvrent une voie pour la réconciliation nationale. Pourquoi? Parce que les Vietnamiens sont confrontés à des fantômes d'étrangers. Des fantômes de gens qui sont venus mourir loin de chez eux. Mmh. Donc des Américains, des Français, mais aussi des Vietnamiens du Nord qui sont venus mourir au Sud, des Vietnamiens du Sud qui sont venus mourir au Nord. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on va les exorciser? Est-ce qu'on va les chasser? Les Vietnamiens, non. On pensait, pour être tranquille, finalement, et pour se garantir un futur meilleur, il faut les adopter. Ouais. Et donc, ils ont adopté ces fantômes au sein de leur hôtel domestique pour leur laisser une place et leur permettre, ici, d'être un petit peu comme chez eux, avec l'espoir que leur mort serait là-bas aussi comme chez eux.
Ouais. Donc c'est une façon de dépasser le traumatisme et d'entrevoir l'avenir.
Exactement. Autrement dit,
d'où l'utilité du fantôme.
Les vivants seuls ne peuvent pas décider de la réconciliation nationale.
Les fantômes sont des choses qui arrivent. C'est le titre de votre article, accessible gratuitement sur le site de The Conversation, que nous allons mettre en lien sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr. Pour en savoir plus, je signale aussi cette revue dont vous parliez, Aline Richard, de Sciences Humaines Terrain, le numéro 69, qui est en kiosque ou consultable sur Internet. Et pour être complet, il y a une expo sur ce thème au musée du Quai Branly jusqu'au 15 juillet prochain, Enfer et fantômes d'Asie.
Et un week-end particulier, ce week-end, dans lequel on parlera du numéro et d'autres fantômes.
Toujours au Quai Branly, c'est
toujours
ça, ce week-end.
Absolument.
Très bien. Dans un instant, on s'intéresse à la découverte de la biodiversité à Paris et plus particulièrement de renards au bois de Vincennes. Les histoires d'Ale, Rita Mitsouko dans La Tête au Carré. La programmation musicale est signée Thierry Dupin.
La Tête au Carré, Daniel Fievé.
Avec nous pour ce club de La Tête au Carré aujourd'hui, Aline Richard de The Conversation, Grégory Delaplace, anthropologue, Loïc Mangin de Pour la Science. Et l'heure est venue de découvrir les reportages de Diane Rottner, Nastasia Michael et Benoît Tonson, des étudiants de l'université Paris Diderot que vous avez encadrés, Axel Villard.
Oui, et des reportages de terrain, des vrais, Daniel, puisqu'on est allé dans Paris et autour de Paris à la rencontre de la biodiversité.
Alors, avant d'écouter vos reportages, dites-nous les uns et les autres, quel rapport vous entreteniez avec la radio avant de vous lancer dans cet exercice du reportage, Jan Rottner.
Eh bien, moi, je ne connaissais pas trop. Ouais. Je viens du monde de l'image, plutôt, puisque j'ai fait de l'illustration scientifique avant.
Ouais. Avant de reprendre vos études, vous aviez fait de l'illustration scientifique.
Étudiante, hein. Oui. Pas professionnelle encore. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la radio dans le cadre de mon master, et ça m'a plu. D'accord. Maintenant, j'écoute quelques podcasts, contrairement à avant.
D'accord, donc vous aviez pris goût doucement. Oui, Nastasia, voilà. Michael.
Oui, je dois avouer que c'est à peu près pareil. C'est le master aussi qui m'a fait me pencher sur la radio. Et j'écoute moi aussi quelques podcasts.
Ouais. Benoît Tonson.
Et moi, je suis un auditeur fidèle de France Inter. Je me réveille tous les matins avec. Ouais. Et c'est le média qui m'a donné envie de reprendre des études pour faire de la vulgarisation.
Ouais. Alors vous êtes... oui, Axel ?
Je disais, il en reste, Daniel, tout n'est pas perdu, des jeunes écoutent France Inter.
Oui, c'est ça, il en reste quelques-uns. On écoutera votre reportage, Benoît, dans un second temps. On va commencer avec votre reportage à vous, Diane Rottner et Nastasia Michael. Vous êtes partis à la recherche d'un animal sauvage et particulièrement difficile à débusquer, le renard. Nastasia, Diane, comment vous y êtes-vous prise pour partir à la rencontre des renards parisiens ?
Alors, pour tenter de trouver un renard, nous avons fait appel à Xavier Japiot, naturaliste à la ville de Paris. Il connaît très bien cet animal et nous a livré quelques astuces pour être aussi discret que possible quand on part sur sa piste.
Nastasia.
Oui, ça va peut-être vous surprendre, mais on était vraiment pas loin d'ici, dans le bois de Vincennes, à deux pas du périphérique parisien. Parce que oui, il y a bien des renards qui se promènent dans la capitale. Alors, à la tombée de la nuit, l'ombre du château de Vincennes disparaît, le bois se vide de ses joggers et c'est vraiment le moment idéal.
Quand je cherche à observer des espèces de nuit, dont le renard, ce que je recommande toujours aux gens qui m'accompagnent, plusieurs choses. Déjà, de ne pas avoir de parfum sur eux, parce que c'est un marquage qui se sent de très loin. Et enfin, de casser sa forme. C'est-à-dire qu'on longe notamment les arbustes, les arbres, on ne reste pas en plein milieu d'une allée, parce que alors là, on est repéré très très loin. Également, d'apprendre à se déplacer sans faire trop de bruit. Je veux dire par là que le pied doit vraiment épouser le terrain. On ne doit pas sentir logiquement craquer des branches, etc. Et là, on longe la réserve ornithologique qui est juste à l'angle à gauche. Donc tout est relativement calme. C'est le côté arboré dans lequel va trouver justement refuge le renard. Deux fois par an, nous faisons un transect, c'est-à-dire un linéaire de 25 km dans le bois de Vincennes, de 22h30 à 1h30, 2h du matin. Et l'objectif, avec des phares portatifs, attention, c'est interdit, c'est réservé aux professionnels, on va compter dans les allées du bois sur différents itinéraires tous les renards que l'on va repérer, les géolocaliser pour les rentrer ensuite dans une base de données.
Xavier Japiot, on estime qu'il y a combien de renards à peu près dans Paris ?
Dans Paris, la population est estimée à une centaine d'individus, essentiellement dans le bois de Vincennes. Donc on en trouve de l'ordre d'une douzaine intramuros et seulement 2 à 3 dans le bois de Boulogne. C'est un animal de très petite taille, de la taille d'un cocker. Et souvent, il est détecté via les crottes qu'il laisse vraiment bien en vue, notamment pour marquer son territoire, et également des empreintes qui sont caractéristiques. Pour différencier des empreintes de renard, il suffit de regarder les 4 pelotes qui équivaut à 4 doigts. Les 2 pelotes avant sont totalement séparées des 2 pelotes arrière, or que chez le chien, elles pourraient se toucher. Et il y en a d'autres, regardez, un nouveau dortoir de corneille noire, là vous le voyez au-dessus. Il y en a plusieurs, là. Alors on est pile dessous, là. Il y en a une dizaine. En règle générale, un oiseau en dortoir ne fait aucun bruit pour ne pas marquer sa présence. Alors le renard, il rend ce qu'on appelle couramment les services écosystémiques, c'est-à-dire qu'il rend service à l'homme en limitant, pas en éradiquant, mais en limitant les petits rongeurs, campagnols, mulots et autres, porteurs de la maladie de Lyme, qui peut en effet toucher l'homme.
Et pourtant, on tue chaque année entre 500 000 et 1 million de renards. Pourquoi continue-t-on à les tuer ?
Et c'est un animal qui, malheureusement, attire toujours les foudres, notamment des chasseurs. Il peut s'attaquer forcément à des proies que vont chasser les chasseurs, donc il peut entrer en compétition. Mais c'est lui faire un mauvais procès quand on voit tous les services qu'il peut rendre aux agriculteurs et également à l'homme en général. La gauche, je suis en train de marcher dans la boue.
Nous n'avons pas eu de renard.
Ni entendu
de renard.
Mais c'est un animal relativement farouche, donc ce n'est absolument pas anormal.
Par rapport à la campagne, est-ce que le renard est plus protégé en ville et notamment à Paris ?
Alors le renard à Paris n'a pas de statut classé nuisible, donc il est totalement interdit de le chasser. Tous les prédateurs qui sont au sommet ou presque des chaînes alimentaires, si on les retire, c'est quelque part un maillon fort que l'on retire. Et pour nous, c'est vraiment une espèce emblématique de Paris. Donc nous, Parisiens en tout cas, nous sommes très heureux de l'avoir sur notre territoire.
Voilà donc pour ce premier reportage de Diane Rottner et Nastasia Michael. Donc finalement, vous ne l'avez pas vu, ce renard ? Vous n'êtes pas trop déçu ?
Non, ça va.
Ça va, ça va.
Attendez,
oui.
Parce que bon, c'est quand même un animal très farouche, donc c'est normal.
Est-ce qu'on en trouve d'autres, des animaux qui appartiennent à la faune sauvage à Paris ?
Oui, alors on a des fouines, on a des hérissons, on peut entendre, comme on l'a entendu d'ailleurs dans le reportage, des corneilles noires et aussi des chouettulottes. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des insectes nocturnes. Et d'ailleurs, les naturalistes de la ville de Paris ont découvert assez récemment une nouvelle espèce de luciole pour l'Île-de-France.
Alors avec vous, Benoît Tonson, on va s'intéresser à des plus petites bêtes. Vous êtes allé où pour réaliser votre reportage ?
Moi, je suis resté dans Paris, aux alentours du quartier de Pigalle, et nous, on n'est pas rentré bredouille au laboratoire.
Ouais, alors vous êtes allé dans les caniveaux. Allez, on écoute votre reportage.
Place Pigalle, 7h du matin. J'ai rendez-vous avec Pascal Jean Lopez, biologiste au Muséum d'Histoire Naturelle. Son sujet de recherche un peu particulier, la vie microbienne des caniveaux de la ville de Paris. Je le retrouve en train de réaliser des prélèvements sous l'œil médusé des passants.
Il mesure les polluants dans l'eau, la chimie de l'eau, j'en sais rien.
On vient de faire des prélèvements dans les caniveaux et on voit bien ici la densité à la couleur. Donc c'est tout complètement trouble, un peu marron, d'où la présence de micro-organismes dans ce prélèvement.
Génial. Je suis prof de SVT, ça m'intéresse, ouais, de savoir ce qu'on va trouver dans nos caniveaux.
Et à votre avis?
Eh bah, bien, plein de petits êtres unicellulaires, des super bactéries.
Donc c'est composé de... Bon, faut analyser, mais c'est composé de micro-algues, de champignons, de bactéries, de paramécies, de petites bêtes.
Une fois la collecte des échantillons terminée, nous nous rendons au laboratoire de Pascal Jean Lopez pour les analyser.
On récupère ces échantillons. Le but, c'est de concentrer les organismes qui sont présents dans cette petite flasque, ces fioles que l'on avait. Donc on vient les déposer sur des filtres avec, on met en marche une pompe qui va venir aspirer, faire le vide pour concentrer les organismes à la surface du filtre. Et c'est ces filtres que l'on va travailler pour en extraire l'ADN des organismes qui sont présents. Le but est de se servir de l'ADN pour effectivement pouvoir identifier les organismes présents. Et donc on va lire les séquences d'ADN, comme on lisait une signature des organismes, un petit peu comme dans la police scientifique, essayer de savoir qui était là et qui était présent. On veut, à partir de la séquence d'ADN, dire c'était tel ou tel individu. Alors pour nous, ça va être telle ou telle bactérie, telle ou telle micro-algue. Et à partir des séquences d'ADN, on arrive à savoir deux choses. D'une part, qui était là, et aussi l'abondance, c'est-à-dire est-ce que cet organisme qui était là, il y en avait peu ou beaucoup.
Et quels sont les premiers résultats de cette étude? Y aurait-il des applications par rapport à la pollution de la ville de Paris?
Aujourd'hui, on commence à avoir des premiers résultats de l'analyse des bactéries présentes dans ces caniveaux, et il est clair que certaines de ces bactéries ressemblent à des bactéries qui ont été isolées dans des cas de pollution. Donc je pense qu'il y a des bactéries dans les caniveaux qui sont potentiellement impliquées dans la dégradation des hydrocarbures, éventuellement dans la dégradation d'autres polluants atmosphériques ou organiques dans l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire un polluant? C'est notamment des particules fines qui sont dans l'environnement. Potentiellement, certaines de ces bactéries, je ne vais pas donner de nom aujourd'hui, mais seraient capables de continuer de dégrader ces particules, c'est des polluants urbains.
Voilà donc pour ce premier reportage, Benoît Tonson. Alors, il a avancé depuis, Pascal Jean Lopez, le scientifique que vous avez interviewé. Est-ce qu'on a plus de détails sur ce qu'il a trouvé dans ces caniveaux?
Et oui, exactement. Son étude est en train d'être réalisée. Et là, il a réussi à mettre en évidence plus de 6000 bactéries et plus de 4000 espèces eucaryotes, donc essentiellement des microalgues. Et les microalgues, c'est très intéressant puisqu'en fait, ça réalise de la photosynthèse. Donc ça va produire de l'oxygène et donc un petit peu également dépolluer la ville de Paris.
Donc ce qui se passe dans les caniveaux n'est pas forcément sale.
Non, exactement.
Ça purifie aussi.
C'est là aussi que son étude est intéressante, puisqu'il va casser l'image un petit peu du sale et la façon dont les habitants l'aperçoivent.
Voilà, on change le regard sur les caniveaux grâce à vous, Benoît Tonson. La semaine prochaine, Axel, de nouveaux étudiants, de nouveaux reportages.
Oui, deux thèmes très techno, on va dire, puisqu'on va aller découvrir le monde des biohackers, ce qu'on appelle la biologie do-it-yourself, ceux qui détournent un petit peu les instruments des laboratoires. Et on ira craquer le code émotionnel de la musique pour voir comment proposer le meilleur bonjour.
Ah ben voilà, on découvrira ça vendredi prochain. Merci à vous, Benoît Tonson, Diane Rottner, Nastasia, Michael. Et bravo pour vos premiers pas radiophoniques. Et puis merci également aux autres invités de ce club, Loïc Mangin, Aline Richard et Grégory Delaplace. Et merci à Ludovic Asselot et Guillaume Roux qui étaient à la technique aujourd'hui. Juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Aragon ou le vertige de l'aveuglement.